Radio Classique, les spécialistes.
7h40 sur Radio Classique, il y a un an, jour pour jour, Emmanuel Macron remportait le second tour de l'élection présidentielle. Il pouvait entamer un second mandat. 12 mois plus tard, sa cote de popularité n'a jamais été aussi faible, quels que soient les instituts de sondage. Une cote de popularité qui ressemble davantage à la fin d'un mandat qu'à une première année de quinquennat à l'Élysée. Bonjour Bernard Salanès.
Bonjour Renaud Blanc.
Politologue et président de l'Institut Elab, des présidents de la 5e. Je crois qu'il n'y a que François Hollande qui a connu, après un an au pouvoir, une popularité plus faible que celle d'Emmanuel Macron.
Oui, tout à fait. Et même dans les records d'impopularité, elle est détenue par François Hollande. En novembre 2016, il avait atteint 14% les profondeurs du classement. Donc Emmanuel Macron n'est pas dans cette situation, mais vous avez raison. Ce qui est important, c'est de voir ce paradoxe. Emmanuel Macron, il faut le rappeler, est le premier président de la République qui a réussi à être réélu hors cohabitation. Oui. C'était un exploit, une performance politique. Et finalement, cette première année de quinquennat a été un peu une année perdue.
Alors justement, quels que soient les instituts de sondage, la part des très mécontents ne cesse d'augmenter.
Oui, d'abord donc un quart des Français globalement, dernier baromètre IFOP, c'était à peu près pareil chez Elab, un quart des Français lui font confiance. Ouais. Et on a le taux de ceux qui font pas du tout confiance qui remonte et qui se rapproche, parfois même qui dépasse chez certains instituts, les gilets jaunes. Ça veut dire que cette impopularité, elle contient aussi une forte dose d'hostilité. Ouais. On l'avait vu au moment des gilets jaunes, ça s'était décrispé après, notamment bien sûr pendant la période Covid et puis pendant la situation ukrainienne. Et là, on voit que la réforme des retraites à réactiver cette hostilité à l'égard du président de la République. Je dirais aujourd'hui, il y a deux finalement sentiments différents. Il y a cette hostilité, alors on la trouve dans les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen, voire parfois des abstentionnistes. J'allais dire, on n'est pas surpris, même si oui. Évidemment elle est toujours très forte. Elle s'exprime dans les enquêtes qualitatives, par exemple, de manière très forte, parfois très, très brutale. Et puis il y a, et c'est plus récent, un phénomène de déception. Une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron, du premier tour ou du second tour, près de 25-30%, qui commence à montrer des signes de distanciation vis-à-vis du chef de l'exécutif.
Ça veut dire que son socle est en train de doucement mais sûrement s'effriter.
Ouais. Il reste solide. 7 électeurs sur 10 d'Emmanuel Macron disent qu'il revoterait, qu'il referait le même choix. Mais effectivement, entre un quart et 30% prennent leur distance. Et ça, c'est plus dû à la méthode Emmanuel Macron, par exemple à l'utilisation du 49-3, oui. Qui même dans cet électorat-là a surpris, a désarçonné, que la réforme des retraites. C'est un électorat qui soutenait au moins les principes de la réforme des retraites.
Le 49-3, c'est, j'allais dire, l'expression de cette première année d'Emmanuel Macron pour son second quinquennat. C'est le mot que vous retenez?
En tout cas, c'est un point de bascule. Je rejoins ce que vous dites. Jusque-là, la cote de confiance d'Emmanuel Macron, la première année, est autour de 32-35%, elle navigue dans ces eaux-là. J'allais dire, c'est une impopularité habituelle, mais finalement pas très surprenante pour les présidents. Le 49, dans les premières semaines de la réforme des retraites, l'opposition des Français se cristallise sur la mesure d'âge. Dans les premiers cortèges, il y a finalement pas tant de mouvements anti-Macron que ça. C'est le 49-3 qui remet le président de la République en première ligne.
Et ça veut dire que justement ce sentiment anti-Macron, il a petit à petit remplacer le combat contre la réforme des retraites.
Il s'est additionné, finalement. Ouais. Il y a l'opposition à la réforme qui reste, c'est très particulier, nous ne l'avons pas observé souvent, qui reste identique. Dans un conflit social, parfois, il y a une forme d'effritement. On se dit qu'il faut passer à autre chose. Là, ce n'est pas le cas. Depuis le début du conflit, depuis le 11 janvier, 7 Français sur 10 sont invariablement contre la réforme. Et puis, il y a la gouvernance d'Emmanuel Macron, le style de cette première année, le 49-3, que les Français ont pris comme une mesure brutale.
Bernard, est-ce qu'une cote de popularité, ça se remonte? On a le sentiment que c'est très très compliqué. Bon, on a connu quand même une popularité très basse au moment des gilets jaunes. C'est remonté, mais ça prend du temps. On descend beaucoup plus vite qu'on remonte.
Oui, c'est comme au ski. Ouais. C'est comme au ski. Pour descendre, ça va très très vite. Pour remonter, ça prend beaucoup de temps et il faut attendre très longtemps. Voilà. Non, vous avez raison de rappeler qu'Emmanuel Macron a déjà réussi à, je vais pas dire à inverser la courbe, mais en tout cas à repartir à la conquête petit à petit, vous ne passez pas de 25% à 35 ou 40% d'un coup. Ça va prendre, si ça fonctionne, plusieurs mois. Comment il peut fonctionner, président de la République? D'abord, il doit rassurer ce dont vous parliez à l'instant, son socle électoral. C'est plus facile d'aller convaincre ceux qui ont déjà voté pour vous que ceux qui ont voté Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Et donc ça, c'est un enjeu. Ça se joue, par exemple, chez les électeurs de droite. On voit qu'il y a beaucoup de clins d'œil à cet électorat-là dans les dernières prises de parole du président. Par exemple, le texte sur l'immigration. immigration qui maintenant est annoncée. Et puis il y a la question sociale qui reste entière, parce que ce qui déclenche l'hostilité de l'opinion, c'est cette réforme des retraites, qui est une réforme évidemment à forte dimension sociale. C'est sur le terrain social, sur la question des salaires, du pouvoir d'achat, que l'exécutif est aujourd'hui attendu.
Interview d'Emmanuel Macron ce matin dans les colonnes du Parisien, et un soutien, j'allais dire à minima, pour sa première ministre. Il y a une petite phrase, c'est tout. Le couple Macron-Borne, quel est son image auprès des Français?
Eh bien, Madame Borne, aujourd'hui, ne joue pas finalement son rôle de fusible. C'est quoi être fusible? C'est endosser l'impopularité et protéger le président.
Oui.
Elisabeth Borne prend l'impopularité, mais ne protège pas le président. Finalement, le couple exécutif s'est réaligné, et on le voit bien, la chute est brutale. Donc ça peut être un problème à terme pour le président de la République, quand il voudra vraiment repasser dans cette stratégie de conquête, de se dire, est-ce qu'il faut changer de Premier ministre pour incarner aussi une nouvelle dynamique politique pour l'an 2 de ce quinquennat.
Bernard, ce qui est assez étonnant, c'est que le gouvernement n'imprime pas, ou pratiquement pas, quand on voit les ministres, soit il y a une image négative, soit on les connaît pas.
Par exemple, le ministre de l'Éducation nationale, qui est quand même un chantier très important pour Emmanuel Macron, on le sait, reste encore très méconnu. Il y a quelques ministres qui émergent, traditionnellement Bruno Le Maire, Gabriel Attal, notamment en Macronie, Olivier Véran, parce qu'il est porte-parole et qu'il a été
Gérald Darmanin,
du Covid.
Voilà, on a
Gérald Darmanin,
ministre éconnu,
mais
connu.
Très peu. Donc on voit bien que ça a aussi joué dans le portage politique de la réforme. D'ailleurs, que dit Emmanuel Macron ce matin dans Le Parisien? Il dit, j'aurais dû m'investir davantage.
Ouais.
Aveu ou mea culpa, un peu étonnant finalement. Un an après, c'est comme si au foot, le capitaine de l'équipe se disait, je ne vais rentrer que dans les 10 dernières minutes pour voir si je peux faire basculer le match. Évidemment, Emmanuel Macron, c'était sa réforme, c'était son engagement de campagne électorale, et puis on connaît, que l'on apprécie ou pas, sa force de conviction. Il aurait peut-être pu bouger les lignes davantage s'il s'était impliqué en première ligne.
La gagnante des 12 mois qu'on vient de vivre, c'est Marine Le Pen pour vous?
Oui, et vous avez raison de dire les 12 mois, parce que ce n'est pas que la réforme des retraites, bien sûr ça compte beaucoup, mais sur 12 mois, Marine Le Pen s'installe aujourd'hui comme la deuxième personnalité préférée des Français. Et on voit bien que l'hypothèse, on est évidemment très loin de l'élection présidentielle, l'hypothèse qu'elle puisse accéder au pouvoir aujourd'hui n'est pas à écarter.
Il y a ce match à gauche, et vous en parliez, je crois, dans un sondage Elab, ce match entre Mélenchon d'un côté, oui, et Ruffin de l'autre, oui, pour savoir qui sera un peu l'avenir, oui, de cette gauche. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Mélenchon reste très très populaire, oui, auprès de ses troupes. Mais si on élargit un petit peu plus, ça devient compliqué.
Oui, vous avez raison, c'est intéressant. Il commence à y avoir match. Un match pourrait s'installer, mais ce match, il n'est pas joué. Il ne faut pas aller trop vite pour ceux qui disent Jean-Luc Mélenchon, c'est fini, il faut tourner la page. Jean-Luc Mélenchon continue, vous avez raison de le rappeler, Renaud, à fédérer son socle électoral. Par exemple, chez les jeunes, il est nettement devant. Or, on sait que c'est les jeunes qui lui ont apporté les 3-4 points qui, dans les 15 derniers jours, l'ont mis aux portes une nouvelle fois du second tour. Mais à l'inverse, François Ruffin pourrait élargir hors l'électorat de la France insoumise vers les autres sympathisants de gauche. Et si, par exemple, à un moment, se posait la question de peut-il y avoir une candidature unique de la gauche à la présidentielle, François Ruffin pourrait apparaître comme cette réponse-là.
Merci Bernard Sananès, le président d'Elab, pour évoquer les 12 premiers mois d'Emmanuel Macron à l'Élysée, les 12 premiers mois de son second quinquennat. On en reparlera d'ailleurs avec Luc Ferry à 8h40 dans Esprit Libre. Dans un instant, le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre. Un anniversaire ce matin, les 10 ans du mariage pour tous. Il est 7h48 sur Radio.